Bon, je m'excuse d'avance, il y a peut-être des petits couacs sur la présentation, mais ça va aller. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous présenter rapidement l'équipe Cresson du laboratoire AAU, donc Ambiance Architecture Urbanité, pour l'acronyme. Vous raconter un peu nos thématiques de recherche, vous raconter aussi des petits éléments plutôt de l'ordre de comment savoir les travaux en cours, connaître un peu les actualités, etc. Et puis je reviendrai sur la thématique de cette semaine, parce que c'est une thématique qui est en lien avec des réflexions qui sont assez grandissantes en termes de place dans le laboratoire et dans l'équipe. Donc je vous expliquerai aussi un peu comment ça se situe par rapport à d'autres réflexions qu'on mène aujourd'hui. Donc pour le labo, enfin pour l'équipe Cresson, on a l'habitude de dire que, enfin, il y a une anecdote qui circule sur la manière dont cette équipe s'est formée. Donc je vais vous la raconter parce qu'elle se passe comme ça. Alors elle a plusieurs versions, je vous donne celle qu'on m'a donnée. Elle est sûrement en partie erronée parce que j'ai l'impression qu'elle se transforme un tout petit peu à chaque fois que quelqu'un la raconte. Donc ça se passe dans ce bâtiment il y a un peu plus de 40 ans, donc 45 ans. Le bâtiment, donc, c'est un bâtiment qui accueille une école d'architecture. Dans une école d'architecture, l'organisation de l'espace, étrangement, elle n'est pas toujours très, 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 très bien tenue. Donc, des fois, il y a des petits couacs de planning qui arrivent, encore aujourd'hui, hein, 45 ans plus tard. Donc, il y a deux collègues de l'époque qui ont cours, et il se trouve qu'ils ont cours dans le même amphithéâtre. Donc, ces deux collègues sont un philosophe qui travaille sur la question du quotidien, qui s'intéresse à des choses très éloignées de l'autre collègue, donc qui est un physicien, un acousticien. Et donc, ils se retrouvent, alors, une des versions de l'anecdote dit dans le même amphithéâtre, ils vont voir la direction de l'école, ils disent, bon, que fait-on là avec cette histoire? Parce qu'on a cours au même moment, au même endroit. Et puis, la direction de l'école, de manière un peu, voilà, je ne sais pas comment dire, comme ça, nonchalant, dit, bah, faites ensemble, là, trouvez une solution. Donc, ces deux personnes, c'est les deux personnes qui ont fondé l'équipe du Cresson, donc Jean-François Augoyard, donc plutôt côté philosophie ou sciences humaines et sociales plus largement, et Jean-Jacques Delettré, qui a été son acolyte. Donc, l'histoire du Cresson commence dans les années, fin des années 70. Le laboratoire s'installe ici, donc dans cette école, avec cette idée de venir croiser dans une école d'architecture, des approches qui émanent plutôt des sciences humaines et sociales, des approches qui émanent plutôt des sciences physiques ou des sciences de l'ingénieur, peut-être par la suite. Les questions du sonore sont présentes dès le début dans l'équipe. Elles fondent un peu même les premiers temps et les premiers travaux avec un groupe qui commence à se former autour de ces deux premières personnes et qui s'étoffe au fur et à mesure. Il y a quelques dates clés dans l'histoire de l'équipe, je ne vous les donne pas toutes, mais en tout cas, il y en a peut-être. Enfin, j'en ai fait ressortir trois dates, moments importants. Il y en aura un troisième par la suite. Donc, en 78, l'équipe Cresson est formée, avec cette dénomination-là, par ailleurs, qui est encore la nôtre aujourd'hui. En 98, on va dire qu'il y a une forme de mariage arrangé. Qui est imposé par nos institutions d'appartenance, d'un rapprochement avec une autre équipe qui se trouve à l'autre bout quasiment de la France, donc à Nantes, le CERMA. Ce mariage qui n'était pas un mariage d'amour, hein, de choix, mais plutôt un mariage arrangé, a été quand même plutôt heureux dans les années qui ont suivi et a permis aussi d'asseoir et de fonder les travaux sur les ambiances à l'échelle de la France. Donc ça, on est en 98, hein, une vingtaine d'années donc après les premiers, on va dire le début officiel de l'équipe Cresson. Alors ce mariage amène une UMR, donc une unité mixte de recherche du CNRS, qu'on appelle à l'époque Ambiance Architecturale Urbaine. Ce mariage amène aussi une formation conjointe, donc un DEA, pour ceux qui savent c'était quoi les DEA, donc un diplôme d'études approfondies, donc un équivalent aujourd'hui d'un Master 2, hein, mais à l'époque c'était des formations après la première diplomation, qui elle a pris fin en 2006 comme l'ensemble des DEA en France. Et puis il y a une autre date importante qui est plus proche de nous, donc une dizaine d'années d'aujourd'hui, où ce rapprochement avec le CERMA, il s'est multiplié d'une certaine manière parce que le CERMA s'est lui-même rapproché d'une autre équipe nantaise et donc on s'est retrouvé à être de plus en plus nombreux autour de cette UMR, donc qui a changé aussi de nom à l'occasion, qui s'appelle depuis 2014 Ambiance Architecture Urbanité. Je vous raconte un peu ce qui fait l'UMR, donc l'unité mixte de recherche, donc qui, comme je disais tout à l'heure, regroupe les deux équipes, l'équipe grenobloise et l'équipe nantaise. Donc aujourd'hui, on a 6 thématiques de recherche fortes, on les appelle des lignes d'horizon, parce que c'est un peu des lignes qu'on suit, des envies qu'on a, c'est plutôt nos horizons, même si aujourd'hui, c'est plutôt des choses sur lesquelles on travaille. Donc ces 6 lignes sont celles qui sont affichées sur le PowerPoint. La première, je vais les raconter à ma façon avec mes mots, elle est plutôt de l'ordre théorique, donc elle essaye de comprendre comment aujourd'hui les approches théoriques et épistémologiques autour des ambiances se structurent, et notamment comment ces approches-là se situent et se positionnent dans le champ des Atmosphere Studies, qui est un champ de recherche à l'international. Une deuxième ligne d'horizon qui traite plutôt des questions politiques, de la notion d'ambiance, notamment les rapports avec les injustices et les inégalités, mais aussi à des excès au territoire. Une troisième, j'y reviendrai sur celle-là un peu plus longuement, parce que c'est celle avec laquelle, selon moi, la Winter School de cette année a le plus en lien, qui traite de la sensibilisation des transformations socio-écologiques de nos milieux de vie, donc comment les approches sensibles et les questions écologiques peuvent venir dialoguer, qu'est-ce que les unes apportent aux autres. Une quatrième qui traite plutôt d'une critique et d'une compréhension des enjeux de la fabrique architecturale, urbaine et territoriale, plutôt des membres du projet, de la projection des territoires, de la transformation des territoires. Et puis, deux autres qui sont, j'ai envie de dire, presque plus appliquées, ou en tout cas, elles ont cette prétention de base. Une qui vise à expérimenter des ambiances par l'architecture, donc vraiment dans des postures de création, de mise en œuvre, de faire des ambiances, de les fabriquer, en tout cas d'installer les champs des possibles pour que des ambiances adviennent. Et puis une dernière qui est liée plutôt à la manière d'exprimer, de raconter, de mettre en visibilité ou de mettre à l'oreille, ou les deux ensemble, des mondes existants, des mondes perçus, donc des ambiances existantes. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec cette thématique des ambiances qui se consolident, ils arrivent aussi d'autres effets. Un peut-être des premiers effets, c'est la création d'un réseau international, donc le réseau international Ambiance, qui est aujourd'hui actif. Je vous invite par ailleurs, pour celles et ceux qui ne font pas partie d'en faire, c'est très simple, il faut juste aller sur le site internet et mettre votre mail, et vous recevez la newsletter qui vous donne des nouvelles des personnes à travers le monde qui travaillent sur ces questions-là. Donc c'est un réseau qui existe aujourd'hui depuis bientôt 20 ans, pas encore complètement, c'était 2008 la fondation, mais bientôt 20 ans. Et puis avec le réseau, il y a aussi une revue, donc une revue scientifique qui porte le même nom, on est un peu monomaniaque sur le terme, hein, c'est tout est réseau ambiance, revue ambiance. La revue a aussi une ambition internationale, mais de fait, il y a aussi beaucoup de collègues français ou du moins francophones qui publient. Pareil, très facile d'avoir accès, c'est sur Internet. Il suffit de taper revue ambiance et en général, vous tombez dessus, elle est assez bien référencée. Peut-être des choses un peu moins bien référencées, mais je trouvais que c'est intéressant de vous les raconter. Il y a aussi une collection chez Routledge, dans cette ambition de diffuser les travaux et de faire discuter les travaux de l'équipe avec ceux à l'international. Donc une collection chez Routledge qui traite des questions de l'environnement sensoriel, on va le traduire comme ça, de l'architecture de l'espace urbain, donc c'est une traduction approximative de ambiance, architecture, urbanité, avec une adaptation au vocabulaire anglophone, ou en tout cas plutôt international pour le dire correctement. Donc il publie une série d'ouvrages, à la fois des ouvrages signés par un seul auteur ou une seule autrice, et des ouvrages collectifs. Comme vous les voyez, c'est les derniers, hein. Enfin, j'ai juste fait une capture d'écran de ce qui était publié dans les derniers mois, années. Vous voyez le lien très fort avec les thématiques qu'on traite. Certains de ces ouvrages traitent spécifiquement d'approches sensorielles, monosensorielles, comme le sonore, et d'autres vont être sur des approches un peu plus larges, comme par exemple la question des espaces et des affects. Et puis, aussi un peu moins visible et un peu moins facile à trouver, mais très très riche d'informations, peut-être presque plus riche d'informations que sur les sites officiels, hein, parce que Julien, qui est là sourit de manière un peu maligne, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on retrouve sur des interfaces qui ne sont pas forcément les interfaces les plus officielles. Donc, un accès sur la documentation du Cresson, donc Françoise Aquet qui est juste au fond de la salle pourra vous revenir là-dessus. Et j'ai vu que vous, quelque part, il y a des petits, les sortes de marque-pages qui sont sur votre bureau. Vous donne aussi les accès au catalogue de l'ADOC du Cresson et à la collection HAL de l'équipe. Donc là, on est plutôt sur les ressources, on va dire, écrites et la production scientifique de l'équipe et du labo. On a des carnets hypothèses, des formes de blogs scientifiques pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas familières avec la logique carnet hypothèse. On en a beaucoup. Je cite peut-être trois qui sont ceux qui regroupent le plus d'informations. Donc le premier, c'est Cresson Veille et Recherche, qui traite un peu des actualités scientifiques et aussi un support d'expression pour les collègues enseignants, chercheurs, doctorants, doctorantes, pour des sujets d'actualité qui ne deviennent pas forcément des papiers scientifiques, mais qu'on considère qu'il faut bien communiquer quelque part, qu'il y a une activité, qu'il y a une journée, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc là, c'est plutôt le carnet Veille et Recherche. Il y a le... Vas-y, il n'y a pas de souci. Il y a une entrée spécifique sur le Cresson Enseigne, où vous trouvez là, notamment les éditions précédentes de la Winter School. Vous trouvez aussi de manière plus limitée d'autres enseignements qu'on peut porter en tant qu'équipe. Mais c'est principalement la Winter School qui va être représentée dans ce carnet-là. Et puis, il y a un carnet qui a été formé au moment des rencontres de l'UMR à AAU. Donc, pendant un an, on a eu 6 rencontres, chacune autour de chaque ligne d'horizon que je vous ai présentée auparavant. Donc, il y a un carnet qui recense l'ensemble des rencontres pendant cette année et qui renvoie vers la dernière partie cachée des ressources, qui est tout ce qui est audiovisuel, donc qui sont à la fois, ça peut aller de la vidéo de captation d'un moment de ce type-là, ce n'est pas le cas tout de suite, et merci, mais ça peut être, comme on peut avoir des formats vidéo comme podcast de ce type-là, mais on peut avoir aussi des vidéos qui sont issues plutôt des travaux de recherche où on est vraiment sur de la production audiovisuelle de l'équipe et des choses de ce type-là. Je vous invite vraiment à vous perdre un peu dans le canal U du labo et dans le Vimeo ou la chaîne encore Ambiance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc moi, j'en découvre encore après 10 ans dans le labo plein de choses. Donc pour les ressources cachées. Et puis une dernière cachée mais pas cachée, enfin ou peut-être un peu cachée mais pas complètement, c'est le site Cartophonie, donc qui est un site qui est issu d'un travail de recherche mené il y a quelques années maintenant, pas mal d'années maintenant, qui vise à recenser des moments, situations sonores, on va les appeler comme ça. Donc vous vous retrouvez sur une carte et vous cliquez sur des endroits où il y a eu de la captation son, chacune associée à une fiche descriptive et assez précise de pourquoi cette captation, à quel moment, dans quel cadre, par qui, qu'est-ce qu'elle raconte, des éléments de ce type-là, qui est un site assez précieux dans lequel vous pouvez éventuellement participer si vous le souhaitez. Donc une fois que je vous ai donné tous ces éléments, on va dire plutôt de où vous pouvez trouver de l'info, je vous ai déjà parlé de la notion d'ambiance, j'imagine que peut-être il y en a parmi vous qui connaissent ce terme, qui le mobilisent peut-être dans leur quotidien, je ne sais pas, je vous regarde, peut-être pas. Parce que je me disais, peut-être ça vous intéresse que j'essaye de définir un tout petit peu de quoi on parle. Vous verrez, j'utilise bien le terme « essayer de définir » parce que, comme pour chaque notion, un peu chacun a sa définition. Ce que j'ai fait le choix aujourd'hui, c'est plutôt de vous dire de manière historique comment la notion elle a évolué, parce qu'au début, elle avait peut-être quelque chose d'une définition assez claire, simple, facilement saisissable. Et plus on avance dans le travail, plus on voit que ça se complexifie et c'est peut-être un peu moins, un peu moins linéaire comme définition. Juste pour vous dire comment ces définitions-là arrivent, je rappelle, l'équipe est fondée ici. Quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales, quelqu'un qui vient plutôt des sciences physiques et de l'ingénieur, dans un cadre qui est plutôt un cadre de création, pour le dire de manière assez large, un monde, parce que l'architecture est quand même rattachée au monde de la culture et de la création au sens assez large et au pluriel. Donc, à la base, on part quand même sur la question des ambiances de travaux de recherche qui sont issus, historiquement, j'ai envie de dire, du monde plutôt technique, plutôt des sciences, donc physique et de l'ingénieur. Aujourd'hui, on rajouterait les SVT avec, mais ce n'était pas le cas au début. Qu'on étend au fur et à mesure aux sciences humaines et sociales et au monde de la conception et de la création. L'idée, c'est dès le début, et ça on retrouve des traces dès les premiers écrits de l'équipe, en tout cas des personnes membres de l'équipe, est de proposer une posture autre ou complémentaire à des pratiques environnementales qui existent autour des questions du son déjà à l'époque, qui sont jugées, en tout cas en partie, normative ou trop technique pour embrasser la complexité du sonore et des CVQ, et de favoriser aussi des démarches qui tendent très rapidement dans le laboratoire à ne pas être que monosensorielles, mais multisensorielles, partant du principe que quand bien même on peut rentrer par une entrée spécifique, en l'occurrence pour vous cette semaine le son ou le sonore, très rapidement il y a autre chose qui va venir rentrer en jeu et que le son n'est pas que du son, ça peut être aussi plein d'autres choses. L'idée, c'est aussi de comment réintégrer, et ça dès le début des travaux du laboratoire et de l'équipe, la question des êtres. Alors, j'utilise des termes d'aujourd'hui. À l'époque, on aurait dit les usagers, les usagères, ou les usagers tout court même. Mais en tout cas, les êtres, pour reprendre des mots d'aujourd'hui, et leur expérience dans tout ce qui va concerner les approches plutôt d'aménagement ou de conception des espaces. Ça, c'est des choses qu'on trouve dès les années 70-80. Et on peut le dire, enfin en tout cas moi je n'ai aucun souci à le dire vu que je n'étais pas là à l'époque, qu'on est quand même sur des postures assez fortes et précurseuses à l'époque par rapport à ce qui se faisait à côté et autour. Ce qui veut dire que dès le début de la création de l'équipe, il y a une approche interdisciplinaire qui est forte. On n'a pas pris le temps, mais chacune d'entre nous vient de quelque part, mais aussi formé ou en tout cas sensible et travaille avec autre chose que de là où il vient, où elle vient. Et puis les travaux du labo, outre leur caractère interdisciplinaire, renvoient aussi à des moments de vie quotidiens. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent depuis le début. Là, pour le coup, en accord avec ce qui se fait dans les études urbaines dans les années 70-80, où on reprend un intérêt sur le tous les jours, voilà, les environnements un peu banaux, pour utiliser les termes de l'époque. Donc, un peu en partant de ce principe-là, une des premières définitions stabilisées qu'on peut avoir de la notion d'ambiance va renvoyer à trois dimensions. Et c'est là où je vous dis où là, c'est facilement saisissable, en tout cas selon moi. Parce que ces trois dimensions renvoient très rapidement en trois champs de disciplinaire ou de pensée que j'ai annoncé préalablement. Donc, une première dimension qui est technique et fonctionnelle, où l'ambiance peut être envisagée comme un ensemble de paramètres, des paramètres acoustiques, des paramètres lumineux, des paramètres thermiques, etc., qui vont, de fait, caractériser un contexte spatio-temporel. Je note tout de même que le rapport entre l'espace et ces paramètres, ces données, est fait dès le début, hein. Simple, mais c'est toujours un peu des choses en croisée. La seconde composante va être une composante sociale, en tout cas qu'on nomme sociale à l'époque, qui va être issue d'un construit donc social et culturel. Elle va résulter d'une appropriation à la fois individuelle et collective, ou à minima pré-collective. Et puis la troisième dimension va être plutôt sensible ou esthétique, où l'ambiance, selon cette entrée-là, va impliquer un rapport esthétique au monde en lien avec des expériences, des perceptions, des vécus. Donc à la fois, c'est une forme de tout qui ne va pas séparer les canaux sensoriels ni les actions de nos perceptions et représentations, mais en même temps, on peut très vite la décomposer dans cette première définition en trois éléments qui interagissent entre eux, mais qui sont aussi saisissables chacun séparément. Et au début des travaux sur les ambiances, on va retrouver des choses qui vont se rattacher de manière prioritaire ou secondaire à chacune de ces trois entrées, ou en croisant deux des trois. Au tout début, je parle. Et puis, en avançant dans le temps, les définitions se complexifient. Donc là, alors la première, elle est écrite à trois mains. Donc, trois mains qui sont trois des personnes qui ont été là au moment du fondement des travaux du Cresson, donc Pascal Onfou, Jean-Paul Thibault et Grégoire Tchelkov, chacun presque d'entre eux représentant une part de cette définition à trois têtes, à trois parts. Et puis là, celle que je vous donne est celle de Jean-Paul Thibault, pas mal d'années plus tard, donc une quinzaine d'années plus tard, dans le cadre d'une conférence. Et là, Jean-Paul, il va dire qu'une ambiance va impliquer 6 chants, à minima. J'en rajoute un 7e personnellement aujourd'hui. Donc, il dit qu'il va y avoir un chant qui est en lien avec la question de la spatialité. L'enveloppe. L'ambiance est une forme d'enveloppe qui nous prend avec elle, elle est diffuse, elle est là. On baigne d'une certaine manière dans une ambiance. Elle va impliquer l'intersensorialité. Bon, ça, on a déjà discuté, je pense que ça, c'est assez évident pour tout le monde autour de la table, d'autant plus en vue de vos pratiques et de vos centres d'intérêt. L'ambiance va intégrer toute une série de relations sensorielles au monde. Elle va aussi inclure une tonalité affective, donc ce n'est pas seulement de la sensorialité pour de la sensorialité, mais va renvoyer aussi à des relations plus qualifiantes, donc qui vont renvoyer à des affects, à des émotions, possiblement. Elle va de fait impliquer le corps, parce que l'idée, c'est aussi de, ça c'est parmi les choses que Jean-Paul a longtemps défendu, qu'une ambiance se vit par le mouvement, par le fait d'exister pleinement, que nos corps existent pleinement dans un espace. Et puis, une expérience va être partageable, donc elle se vit certes à l'échelle d'un corps, d'un individu, mais ce corps, cet individu n'est pas découpé, dissocié des autres dans cet espace, il est situé, donc c'est pour ça que je parlais de relation collective ou pré-collective juste avant. Donc il va se passer, l'ambiance va aussi se structurer dans des rapports de socialité. Et puis, évidemment, une ambiance va s'installer, elle peut être exister et disparaître juste après, comme elle peut se mettre du temps à se mettre en place, voire perdurer une fois qu'elle n'est plus là. Vous avez tous des exemples en tête, une ambiance de marché, je ne sais pas pourquoi le marché ce matin, mais j'ai toujours des très mauvais exemples, mais bon, prenons celui-là. Donc une ambiance de marché, elle est là, elle s'installe, le marché s'installe, et une ambiance de marché s'installe, mais elle peut rester aussi une fois que le marché physiquement n'est plus là. Donc ce rapport en temps peut être... On dit souvent qu'une ambiance est instantanée, hein, qu'elle est là et qu'elle disparaît. Mais en fait, c'est une forme de leurre. Elle prend corps pleinement à un moment donné et c'est un peu son apogée, mais souvent elle se prolonge et elle s'installe avant. Donc aujourd'hui, alors, les travaux du Cresson ont porté sur le sonore en leur fondement, c'est-à-dire les premiers travaux portés explicitement, essentiellement même, et pendant quelques temps, sur le sonore. Petite image d'archive, merci à Nicolas Tixier qui l'a ressorti, où on voit Jean-Jacques Delettré et Jean-François Augouillard, donc les deux personnages de l'anecdote de comment le Cresson est né. Une personne qui n'était pas membre du Cresson, donc il s'appelle Daniel Ruffin, qui était secrétaire de l'école à l'époque, et puis le tout jeune Olivier Ballet, qui prendra sa retraite cette année, qui est parmi l'équipe des 4 personnes qui ont rejoint le Cresson très vite, en tant qu'étudiant encore à l'époque, aux côtés de Jean-François et de Jean-Jacques. Donc les travaux du Cresson commencent sur le sonore dès le début, et si le sonore se transforme très vite en d'autres modalités sensorielles, on commence à travailler sur l'action olfactif, on commence à travailler sur l'intersensorialité, on va y arriver, on assume un travail plein sur les ambiances avec cette complexité, cette intersensorialité qui est présente. Ben, le sonore, il perdure tout le long. Il perdure tout le long des travaux du Cresson, de 78 jusqu'à aujourd'hui, à la fois comme objet, mais peut-être, je dirais, surtout, parce que moi, c'est ça que je trouve plus fort dans ce que le sonore est pour le Cresson, comme posture. La posture de l'écoute, la posture de l'attention, un rapport au mode mineur de la réalité, de ne pas aller là où forcément c'est le plus évident. On est dans une école d'architecture, le fait d'aller travailler sur la question du sonore dans un monde où au final c'est le visuel, au départ notre culture, qui prime, montre aussi des postures que le sonore amène. Travailler aussi entre la captation et la création, être toujours dans un rapport aussi au corpus qu'on mobilise et qu'on manipule, qui peut être à la fois d'une compréhension d'une situation par la captation, sa description, mais aussi son partage, sa mise en discussion par une légère, plus ou moins légère transformation. Puis j'ai pris une citation qui n'est pas de quelqu'un du Cresson, mais une citation que j'apprécie beaucoup, qui raconte un peu cette posture par le sonore. Donc la citation est de Juliette Vauclair, un ouvrage qui date il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Elle dit « Penser par le son et avec lui devient un outil parmi d'autres pour mettre à bas l'hierarchie et les anciennes représentations, pour réfléchir depuis l'infime, le non-binaire, le mouvement, la relation, depuis une multitude de milieux et de centralités différentes, depuis leur agencement varié et à venir. Nous avons à peine commencé à écouter. » Pour moi, dans la citation de Juliette Vauclair, on retrouve voilà, tous ces éléments de posture qui sont, selon moi, au fondement des travaux du Cresson, même s'ils prennent pas ces mots-là à l'époque. Donc, le décentrage par rapport à des postures habituelles, la question du petit, de l'infime, la question du non-binaire, c'est pas que de la description. Une description, une fois qu'on a une captation sonore, elle est aussi manière de raconter, elle est déjà une mise en forme de la réalité, etc. etc. Donc aujourd'hui, en partant du principe que le sonore devient aussi, au-delà d'un objet, une posture pour les travaux du laboratoire et de l'équipe, je me suis dit que j'allais essayer aussi de lister quels sont les enjeux qu'on traite de manière très contemporaine. Les dernières années, on disait moins qu'on travaille sur les sensorialités. On dit et on affirme de manière très forte qu'on travaille sur la question des ambiances. Mais comment on le fait, en fait ? C'est quelles sont les entrées thématiques qu'on utilise pour réfléchir autour de ça. Donc, une première entrée, c'est sûrement ce maintien des questions théoriques que je vous ai mentionné aussi dans la question des lignes d'horizon de l'UMR. C'est comment on réfléchit aujourd'hui, le nombre de travaux et comment nous, on se situe dans ces travaux-là autour du sensible et autour des ambiances. Parce qu'ici, dans les années 70-80, le Cresson, ce qu'il faisait et ce que les collègues faisaient à l'époque restait extrêmement petit, mineur, vraiment au bord de ce qui se faisait par ailleurs. Aujourd'hui, on a une vraie diffusion des questions sensibles, des questions ambientales, des questions atmosphériques, dans les travaux en sciences humaines et sociales et dans les travaux dans d'autres champs disciplinaires. Vous verrez, j'utiliserai par la suite la citation de quelqu'un qui a plutôt des sciences de la vie et de la terre. Donc on commence vraiment à avoir une diffusion très forte. La question continue à se poser aujourd'hui de comment on se positionne dans cette nébuleuse, comme je l'appelle moi, des travaux et des courants qui traitent du sensible. On est sur des enjeux plutôt théoriques et méthodologiques. Je ne l'ai pas mentionné parce que je pense que vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous allez vite vous rendre compte cette semaine. Le Cresson est aussi très connu pour ses apports méthodologiques parce que travailler sur la question des ambiances, travailler sur la question des sensorialités, travailler sur la question du sonore invite inévitablement d'inventer des nouvelles manières de faire ou se réapproprier des manières de faire d'autres mondes. Donc voilà, on continue à travailler là-dessus et j'ai envie de dire c'est peut-être quelque chose de constant dans l'histoire des 45 ans de l'équipe. La constance est aussi celle de comment on décrit, comment on traduit, comment on partage des ambiances. Vous allez travailler dessus cette semaine, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans nos travaux et dans nos réflexions et dans nos discussions entre nous. C'est ok, une fois qu'on a capté quelque chose, saisi quelque chose, compris peut-être quelque chose, comment on le donne à écouter, comment on le donne à voir, comment on le partage avec des personnes qui n'ont pas passé par le même processus que nous. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu les permanentes. Ça, c'est des choses qu'on traite depuis 45 ans, de manière évidemment qui a évolué, cela va de soi. Mais en tout cas, c'est des choses qui ne bougent pas. Puis, il y a des choses qui évoluent un tout petit peu. Je reprends Jean-Paul Thibault, une conférence qu'il a fait il y a quelques années, où il disait que, je réinterprète ces termes, hein. Il disait le travail sur les ambiances, ok, il y a cette partie théorique, cette partie méthodologique, c'est super, mais il y a aussi des fois des effets indésirables. C'est le terme de moi, c'est pas celui de Jean-Paul, je pense qu'il ne permettrait pas. Mais en tout cas, il y a des effets indésirables aux ambiances, et notamment au fait de produire, de vouloir fabriquer, concevoir des ambiances. Je ne vous liste pas l'ensemble de ces effets indésirables, comme je les nomme moi. J'en prends 3, qui sont les plus saillants. Il y en a un 4e sur lequel je ne reviendrai pas. Donc le premier, selon Jean-Paul, mais en reprenant des travaux d'autres, c'est une forme d'aseptisation. Aujourd'hui, on constate que souvent, sous prétexte de rendre les choses plus accessibles ou plus lisibles, on a une forme d'appauvrissement de l'expérience spatiale, notamment de l'expérience urbaine. On lisse les surfaces, on efface des traces d'usage, on efface des fois même des traces du temps, avec l'idée de d'épurer, en fait, d'enlever des aspérités, de rendre plus facilement observables, contrôlables les espaces. Il reprend ici les travaux à la fois de Rachel Thomas, mais aussi et peut-être surtout de Marc Brevillieri, qui nomme cette ville-là la ville garantie. Le deuxième effet indésirable de, selon Jean-Paul Thibault, c'est une forme de, c'est presque son inverse, son pendant. C'est une forme de mise en spectacle, d'une animation permanente de l'urbain, d'un surinvestissement de ces éléments sensoriels et sensibles, une forme de surstimulation sensorielle, avec notamment toutes les logiques de programmation de l'animation de l'espace urbain qu'on connaît aujourd'hui, où tout doit être vivant, festif, animé de manière permanente. Et puis la troisième entrée qu'il identifie comme un effet potentiellement indésirable, c'est ce qu'il appelle la climatisation. Alors le terme est un peu particulier par rapport aux enjeux de quelques années plus tard que 2017 quand il a fait cette conférence. C'est le fait d'essayer de contrôler, de maîtriser les climats internes, enfin, dans le bâtiment et à l'extérieur du bâtiment. Le fait d'essayer d'être dans une artificialisation de notre climat quotidien. Ça s'applique certainement en intérieur, ça s'applique aussi beaucoup en extérieur, de plus en plus, je dirais même, avec toutes les politiques de rafraîchissement, nécessaires certes, mais qui amènent à une forme d'artificialisation, à un certain coût, je ne parle pas de coût financier forcément, par rapport à ces changements-là d'environnement sensible. Donc pour moi, si on prend en sérieux ces trois effets indésirables, bah, y a des choses sur lesquelles on doit ou on travaille aujourd'hui, aussi dans la recherche, pour essayer de comprendre comment ils se mettent en place. Donc certainement la première, on voit très directement au deuxième effet indésirable de Jean-Paul, et peut-être même un peu en premier, qui est la question de l'hyperesthétisation et la mise en spectacle des mondes urbains. C'est souvent mis en lien avec des logiques capitalistes, de la production du cadre bâti, de mise en marchandisation, on va dire, une forme de marchandisation de l'espace public, une mise en compétition aussi des territoires entre elles. Donc c'est des effets qui vont être très liés à des enjeux politiques contemporains sur comment, au final, on fabrique une ville tout en considérant la question ambientale sans pour autant aller vers des effets de surenchérissement financier sur ces territoires-là, des effets de gentrification, mais aussi à terme des effets d'injustice par des inclusions, des exclusions dans des espaces parce qu'ils sont soit très esthétisés, soit très contrôlés, soit très aseptisés. Je ne rentre pas dans le détail, je pense qu'en plus les images, je les trouve relativement parlantes personnellement, mais peut-être que c'est qu'à moi que ça parle. Mais en tout cas, je voulais chacun et chacune de vous projeter dans vos quotidiens. Aujourd'hui, voilà, on a tout un effet de maîtrise consciente ou inconsciente des ambiances et réfléchir à leurs effets et à leurs causes semble nécessaire. Et puis, il y a une thématique, et je l'ai mis en dernière, c'est pas comme ça que je structure d'habitude les thématiques traitées de manière contemporaine par l'équipe, mais il y a une dernière qui monte beaucoup les dernières années, c'est-à-dire, je dirais, je vous ai dit que depuis le début, il y a cette idée de venir compléter les approches de l'environnement jugées parfois trop normatives ou trop techniques. C'est là depuis les années 78, sauf que c'était pas assumé comme tel, et puis on était dans les années 78. La prise de conscience de la crise écologique n'a pas forcément, enfin je veux dire globale, n'a pas forcément venu influer de manière directe sur le travaux du labo. Il y a eu un effet d'attente un peu. Et puis là, ça fait entre 5 ans, je dirais, quelque chose comme ça, où quasiment l'ensemble des travaux, et si ce n'est pas l'ensemble, c'est un très grand pourcentage de nos travaux, s'orientent sur cette question des enjeux écologiques et de comment on peut penser aujourd'hui des écologies sensibles. Pour moi, la Winter School de cette année s'inscrit dans cette thématique large qu'on traite au labo. Donc, elle se dénomme les échos du vivant. Pour moi, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Alors, les quelques mots que Théo a dit tout à l'heure renvoyaient vers ça. Mais moi, si je dois le situer un peu dans les travaux qu'on mène au Cresson, je dirais qu'on part tous d'un constat qui nous met d'accord. Que les cadres des sensibilités contemporaines a très fortement évolué. Et il a évolué parce qu'on est aussi dans cette pleine urgence environnementale. L'image est assez parlante d'elle-même, encore une fois, en arrière-plan. Aujourd'hui, on n'est plus seulement à des choses qui sont de l'ordre de l'abstraction. On les vit dans notre quotidien de manière très forte. Et puis, il y a des voix qui commencent à se lever pour dire ce que la phrase de 78 disait, plus ou moins, avec d'autres mots, mais plus ou moins la même chose, qu'on ne peut pas compter à la seule raison pour élever aujourd'hui le défi écologique. Que tous ces éléments très, très cartésiens, très mesurés, toutes les données que nous avons, ne suffisent de toute évidence pas pour faire face à cet à quoi nous devons faire face collectivement. Et que eux, donc c'est là où je prends, alors c'est pas forcément des textes, comment dire, c'est des textes qui ont fait beaucoup d'effet. Là, c'est le texte de Tassin qui a été publié dans Libération, qui s'appelait, je sais plus comment, pour une approche sensible des questions écologiques ou un truc comme ça. Pour une écologie sensible peut-être même, qui a été suivie par un livre par la suite signé de son seul nom. Où de là, on a toute une série de biologistes qui disent qu'il faut faire confiance à nos sens, qui nous font voir donc tous les jours les ravages du bétonnage et entendre le silence d'un printemps aux oiseaux, en reprenant ce printemps silencieux que d'autres ont formulé des années avant sur d'autres thématiques environnementales, en l'occurrence les pesticides, mais reprend la même chose en disant voilà, on ne peut pas se fier seulement à la raison et seulement à des données quantifiables et quantitatives pour aborder ces questions-là. Et donc, en partant de ce constat-là qu'on partage tous, moi j'ai envie de dire et de croire d'une certaine manière, peut-être naïvement, que le sonore et le sensible plus largement peut nous permettre de... Alors, je reprends des termes d'auteurs assez connus, mais peu importe d'une certaine manière les termes, de faire atterrir les questions écologiques ou de ramener l'écologie à la maison. En tout cas, peut nous permettre de reconnecter des échelles macro, des enjeux écologiques contemporains, à des échelles très micro, celles de nos corps et de nos corps au quotidien dans leur environnement de tous les jours. Donc, le sonore peut nous permettre de prendre conscience de notre existence et à quoi elle renvoie, et de nous mettre dans une forme de résonance avec le monde, de nous relier à ce monde-là avec lequel, historiquement, on a été dissociés. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont amené à ces distanciations-là, mais en tout cas, peut-être que c'est des manières de nous reconnecter, pour utiliser un autre terme que j'aime un peu moins que le terme de résonance, avec le monde dont nous faisons partie. Et puis, le sonore et le sensible vont aussi avoir une dimension imaginative. Certainement, vous allez travailler en partie là-dessus cette semaine. Ils peuvent nous permettre facilement, non seulement de capter des situations, mais de fabriquer des nouveaux récits. Et ces nouveaux récits sont aujourd'hui extrêmement nécessaires pour pouvoir se projeter vers des possibles autres. Donc, je reprends une phrase de Stengers qui est issue d'un entretien qu'elle a donné il y a quelques années, où elle disait « il faut qu'on trouve des moyens pour fertiliser les sols des possibles, pour fabriquer des mondes, même si c'est des mondes imaginaires et des mondes abstraits, qui nous donnent envie d'aller vers des changements, des modifications, des lendemains quelque peu différents de ceux d'aujourd'hui. » Donc pour moi, deux postures, le fait de mettre en cœur des enjeux environnementaux les rapports des êtres avec le monde, et puis de ne pas réduire les questions environnementales ou écologiques, hein, ça, prenez les termes que vous voulez, à les questions des nuisances, des risques, des pollutions, mais de les penser justement comme des possibles aussi à imaginer. Mais dans tout ça, il reste un enjeu qui, selon moi, de là où je me situe, est vraiment de taille, vraiment important et très, très difficile à aborder, qui est la question de comment on se décentre de l'anthropocentrisme dans lequel nous sommes tous quotidiennement. Je pense que le « comment sonne le vivant » va peut-être vous permettre de, à la hauteur de cette semaine et à la hauteur de chacun, chacune d'entre vous et de votre combinaison, d'y réfléchir de manière directe. C'est comment, à un moment donné, on se décentre de nous en tant qu'êtres humains et on arrive, et le son peut-être peut permettre ça presque plus facilement que d'autres moyens, à imaginer le monde par des regards, enfin, par des oreilles, par des sons autres que ceux qui sont les nôtres, ou à minima en interaction entre nous et autre chose. Voilà, j'étais un tout petit peu longue, je pense, mais je m'excuse de cela. J'espère que ça n'a pas été trop confus. Je vous souhaite une très belle semaine du son, et une très belle semaine Winter School au Cresson, et de la part évidemment de toute l'équipe. Merci.